La Vallée au Loup, juin 1812. Privé de la société de mes deux cousins, je la remplaçai par une liaison nouvelle. Au second étage de l'hôtel que nous habitions, demeurait un gentilhomme nommé Géril. Il avait un fils et deux filles. Ce fils était élevé autrement que moi. Enfant gâté, ce qu'il faisait était trouvé charmant. Il ne se plaisait qu'à se battre et surtout qu'à exciter les querelles dont il s'établissait le juge. Jouant des tours perfides aux bonnes qui menaient promener les enfants, il n'était que bruit de ces espiègleries que l'on transformait en crimes noirs. Le père riait de tout, et Joson n'en était que plus chéri. Géril devint mon intime ami et prit sur moi un ascendant incroyable. Je profitai sous un tel maître, quoique mon caractère fût entièrement l'opposé du sien. J'aimais les jeux solitaires, je ne cherchais querelle à personne. Géril était fou des plaisirs de cohue et jubilé au milieu des bagarres d'enfants. Quand quelque polisson me parlait, Géril me disait « Tu le souffres ?» À ce mot, je croyais mon honneur compromis et je sautai aux yeux du téméraire. La taille et l'âge n'y faisaient rien. Spectateur du combat, mon ami applaudissait mon courage, mais ne faisait rien pour me servir. Quelquefois, il levait une armée de tous les sautereaux qu'il rencontrait, divisait ses conscrits en deux bandes, et nous escarmouchions sur la plage à coups de pierre. Un autre jeu inventé par Géril paraissait encore plus dangereux. Lorsque la mer était haute et qu'il y avait tempête, la vague fouettée au pied du château, du côté de la Grande Grève, jaillissait jusqu'aux grandes tours. À 20 pieds d'élévation au-dessus de la base d'une de ces tours, régnait un parapet en granit, étroit, glissant, incliné, par lequel on communiquait au ravelin qui défendait le fossé. Il s'agissait de saisir l'instant entre deux vagues, de franchir l'endroit périlleux avant que le flot se brisât et couvrît la tour. Voici venir une montagne d'eau qui s'avançait en mugissant et qui, si vous tardiez d'une minute, pouvait ou vous entraîner ou vous écraser contre le mur. Pas un de nous ne se refusait à l'aventure, mais j'ai vu des enfants pâlir avant de la tenter. Se penchant à pousser les autres à des rencontres, dont ils restaient spectateurs, induirait à penser que Géril ne montra pas dans la suite un caractère fort généreux. C'est lui, néanmoins, qui, sur un plus petit théâtre, a peut-être effacé l'héroïsme de Régulus. Il n'a manqué à sa gloire que Rome et Tite-Live. Devenu officier de marine, il fut pris à l'affaire de Quiberon. L'action finie, et les Anglais continuant à canonner l'armée républicaine, Géril se jette à la nage, s'approche des vaisseaux, dit aux Anglais de cesser le feu, leur annonce le malheur et la capitulation des émigrés. On le voulut sauver en lui filant une corde et en le conjurant de monter à bord. « Je suis prisonnier sur parole » s'écrie-t-il au milieu des flots, et il retourne à terre à la nage. Il fut fusillé avec son breuil et ses compagnons. Géril a été mon premier ami. Tous deux mal jugés dans notre enfance, nous nous liâmes par l'instinct de ce que nous pouvions valoir un jour. Deux aventures mirent fin à cette première partie de mon histoire et produisirent un changement notable dans le système de mon éducation. Nous étions un dimanche sur la grève, à l'éventail de la porte Saint-Thomas, à l'heure de la marée. Au pied du château et le long du sillon, de gros puits enfoncés dans le sable protègent les murs contre la houle. Nous grimpions ordinairement au haut de ces pieux pour voir passer au-dessus de nous les premières ondulations du flux. Les places étaient prises, comme de coutume. Plusieurs petites filles se mêlaient aux petits garçons. J'étais le plus en pointe vers la mer, n'ayant devant moi qu'une jolie mignonne, Hervine Magon, qui riait de plaisir et pleurait de peur. Géryl se trouvait à l'autre bout du côté de la terre. Le flot arrivait, il faisait du vent. Déjà les bonnes et les domestiques criaient. « Descendez, mademoiselle! Descendez, monsieur !» Géryl attend une grosse lame. Lorsqu'elle s'engouffre entre les pilotis, il pousse l'enfant assis auprès de lui. Celui-là se renverse sur un autre, celui-ci sur un autre. Toute la file s'abat comme des moines de cartes, mais chacun est retenu par son voisin. Il n'y eut que la petite fille de l'extrémité de la ligne, sur laquelle je chavirai, qui, n'étant appuyée par personne, tomba. Le jusant l'entraîne. Aussitôt, mille cris, toutes les bonnes retroussant leurs robes et tripotant dans la mer, chacune saisissant son magot et lui donnant une tape. Hervine fut repêchée, mais elle déclara que François l'avait jetée bas. Les bonnes fondent sur moi, je leur échappe, je cours me barricader dans la cave de la maison. L'armée femelle me pourchasse. Ma mère et mon père étaient heureusement sortis. La Villeneuve défend vaillamment la porte et soufflette l'avant-garde ennemie. Le véritable auteur du bal, Géryl, me prête secours. Il monte chez lui et avec ses deux sœurs jette par les fenêtres des potées d'eau et des pommes cuites aux assaillantes. Elles levèrent le siège à l'entrée de la nuit. Mais cette nouvelle se répandit dans la ville, et le chevalier de Chateaubriand, âgé de 9 ans, passa pour un homme atroce, un reste de ces pirates dont saint Aaron avait purgé son rocher. Voici l'autre aventure. J'allais avec Géryl, à sa servante, faubourg séparé de Saint-Malo, par le port marchand. Pour y arriver, à basse mer, on franchit des courants d'eau sur des ponts étroits de pierres plates que recouvre la marée montante. Les domestiques qui nous accompagnaient étaient restés assez loin derrière nous. Nous apercevons, à l'extrémité d'un de ces ponts, 2 mousses qui venaient à notre rencontre. Géryl me dit, « Laisserons-nous passer ces gueux-là ? » Et aussitôt il leur crie, « Allô, canard !» Ceux-ci, en qualité de mousse, n'entendant pas raillerie, avancent. Géryl recule, nous nous plaçons au bout du pont, et saisissant des galets, nous les jetons la tête des mousses. Ils fondent sur nous, nous obligent à lâcher pied, s'arment eux-mêmes de cailloux, et nous-mêmes battant jusqu'à notre corps de réserve, c'est-à-dire jusqu'à nos domestiques. Je ne fus pas, comme Oriatus, frappé à l'œil, mais à l'oreille. Une pierre m'atteignit si rudement que mon oreille gauche, à moitié détachée, tombait sur mon épaule. Je ne pensais point à mon mal, mais à mon retour. Quand mon ami rapportait de ses courses un œil poché, un habit déchiré, il était plein, caressé, choyé, rhabillé. En pareil cas, j'étais mis en pénitence. Le coup que j'avais reçu était dangereux, mais jamais la France ne put me persuader de rentrer, tant que j'étais effrayé. Je m'allais cacher au second étage de la maison, chez Géryl, qui m'entortilla la tête d'une serviette. Cette serviette le mit en train. Elle lui représenta une mitre, il me transforma en évêque, et me fit chanter la grand-messe avec lui et ses sœurs jusqu'à l'heure du souper. Le pontife fut alors obligé de descendre. Le cœur me battait. Surpris de ma figure débiffée, ébarbouillée de sang, mon père ne dit pas un mot, ma mère poussa un cri. La France conta mon cas piteux en m'excusant. Je n'en fus pas moins rabourré. On pansa mon oreille, et monsieur et madame de Chateaubriand résolurent de me séparer de Géryl le plus tôt possible. Je ne sais si ce ne fut point cette année que le comte d'Artois vint à Saint-Malo. On lui donna le spectacle d'un combat naval. du haut du bastion, de la poudrière, je vis le jeune prince dans la foule au bord de la mer. Dans son éclat et dans mon obscurité, que de destinées inconnues. Ainsi, sauf erreur de mémoire, Saint-Malo n'aurait vu que deux rois de France, Charles IX et Charles X. Voilà le tableau de ma première enfance. J'ignore si la dure éducation que j'ai reçue est bonne en principe, mais elle fut adoptée de mes proches, sans dessein, et par une suite naturelle de leur humeur. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle a rendu mes idées moins semblables à celles des autres hommes. Ce qu'il y a de plus sûr encore, c'est qu'elle a imprimé à mes sentiments un caractère de mélancolie, né chez moi de l'habitude de souffrir à l'âge de la faiblesse, de l'imprévoyance et de la joie. Dira-t-on que cette manière de m'élever m'aurait pu conduire à détester les auteurs de mes jours? Nullement. Le souvenir de leur rigueur m'est presque agréable. J'estime et honore leur grande qualité. Quand mon père mourut, mes camarades au régiment de Navarre furent témoins de mes regrets. C'est de ma mère que je tiens la consolation de ma vie, puisque c'est d'elle que je tiens ma religion. Je recueillais les vérités chrétiennes qui sortaient de sa bouche, comme Pierre de Langres étudiait la nuit dans une église, à la lueur de la lampe qui brûlait devant le Saint-Sacrement. Aurait-on mieux développé mon intelligence en me jetant plus tôt dans l'étude? J'en doute. Ces flots, ces vents, cette solitude qui furent mes premiers maîtres convenaient peut-être mieux à mes dispositions natives. Peut-être dois-je à ces instituteurs sauvages quelques vertus que j'aurais ignorées. La vérité est qu'aucun système d'éducation n'est en soi préférable à un autre système. Les enfants aiment-ils mieux leurs parents aujourd'hui qu'ils les tutoient et ne les craignent plus? Gérer était gâté dans la maison où j'étais gourmandé. Nous avons été tous deux d'honnêtes gens et des fils tendres et respectueux. Telle chose que vous croyez mauvaise met en valeur les talents de votre enfant, telle chose qui vous semble bonne et tout ferait ce même talent. Dieu fait bien ce qu'il fait. C'est la Providence qui nous dirige lorsqu'elle nous destine à jouer un rôle sur la scène du monde.